Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine avec ce podcast et mes autres contenus pédagogiques, je t'aide à structurer et développer ton activité de freelance. Et pour introduire cet épisode, j'avais envie de te partager une de mes réflexions du moment. À force de rencontrer, accompagner, discuter avec des indépendants et toutes les conversations qu'on a sur leur activité, j'ai l'impression que quelque chose qui soutient énormément le développement des personnes que je vois avancer le plus rapidement dans leur projet, c'est la structuration de ce que j'appelle leur organisation stratégique. En d'autres termes, c'est la structure de comment ces personnes travaillent au quotidien et organisent leur travail au quotidien. Ce qui se passe quand on se lance à son compte, c'est qu'on a tellement de choses à faire. On devient une entreprise qu'on gère seule, finalement. Et c'est très facile, du coup, de se perdre dans le fait de faire, toujours plus. Et je suis de plus en plus convaincu, à mesure que j'avance, que la manière dont on structure notre organisation est clé dans notre capacité à développer nos projets, en nous concentrant sur l'essentiel et en ayant accès à la liberté qu'on recherche tous et toutes quand on se lance dans cette aventure. Et c'est donc le sujet de notre épisode du jour, dans lequel j'ai le grand plaisir d'accueillir Sonia Laurembourg, qui est Online Business Manager, et qui accompagne les personnes qui passent du stade de « je suis seul et je fais tout à 100% seul » à « j'ai une équipe structurée autour de moi et du coup on passe dans une autre forme d'entreprise ». Et pendant l'épisode, on échange ensemble sur, de son point de vue et du mien, quelles sont les structures organisationnelles indispensables pour tout indépendant, que tu sois seul et que tu veuilles y avoir une équipe dans le futur ou non, pour que tu puisses super bien cadrer ta manière de gérer ton entreprise. Et clairement, dans cet épisode, je fais cette introduction après l'avoir réécouté, il y a des pépites ultra actionnables. Donc prépare-toi à prendre des notes, il va y avoir plein de choses à en retenir. Et si tu veux plus de contenu comme cet épisode, avec des exercices, des actions concrètes à mener pour ton activité que tu peux mettre en place dès maintenant, je t'invite vraiment à t'abonner à ma newsletter sur thomasburbidge.com/newsletter, car c'est ce que j'y partage tout le temps. Et en attendant de pouvoir échanger avec toi dans nos boîtes mail, je te souhaite une belle écoute et on se retrouve à la fin pour le débrief. Bienvenue sur le podcast, Sonia.
Salut Thomas, merci de m'avoir invité.
Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et je vois, et j'avais oublié, mais je vois qu'on a le même micro en plus, donc voilà, une expérience auditive de qualité, disons.
Devrait être bonne.
Cool. Bah, je suis très très content de t'accueillir, on va parler de plein de choses. Ça fait un moment qu'on discute, toi et moi quand même. Hein. Je me souviens, alors la première fois, je me souviens plus quelle date, mais j'étais chez mon grand-père en Angleterre, donc ça fait au moins deux Noël, je crois.
Ouais, tu comptes ton Noël, c'est pas grave, c'est bon. On s'était contacté la toute première fois, je pense, fin 2019, ouais.
Ouais, ça fait
fin 2019, parce que c'était le moment où j'étais vraiment en réalignement, repositionnement complet. Et bah, je me souviens qu'à l'époque, les podcasts Young, Wild and Freelance étaient très, très, très utiles pour moi à ce moment-là. Voilà.
Et nous voici de l'autre côté. Trop cool.
Exactement, c'est ça.
Cool. Bah, je te propose qu'on commence par la petite question rituelle, du coup, que tu dois bien connaître pour démarrer la conversation, qui est Sonia, comment et surtout pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante?
Yes. Alors, comment et pourquoi, les deux, c'est un peu du hasard en vrai. J'ai croisé la route de l'entrepreneuriat alors que je commençais à voyager. En fait, c'était en 2016, on est parti en voyage avec mon mari. On a voyagé en voilier, en fait, avec un objectif, peut-être pas de tour du monde, mais en tout cas de transat qu'on a fait. Et en fait, à ce moment-là, l'idée, c'était de... On avait des économies et l'idée, c'était de s'arrêter travailler sur le chemin, quoi, comme tout voyageur classique, j'ai envie de dire. J'avais un bagage de prof de français, français et français langue étrangère, donc je m'étais dit, je vais enseigner le français, en fait, pendant mon voyage, quoi, tout simplement. En fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Mon mari, lui, il est développeur, enfin, il est ingénieur logiciel, donc il s'est dit... Ben, j'ouvrir ma micro-entreprise de création de site web, un truc super méga classique en fait. Mmh. Et je me suis intéressée à ce qu'il faisait. Du coup, au début, j'ai commencé à vouloir l'aider, et c'est comme ça que j'ai découvert le milieu merveilleux du freelancing, de l'entrepreneuriat. C'est comme ça que je me suis lancée en fait en 2016, vraiment complètement par hasard. Au début, en essayant de faire des devis pour mon chéri, et en fait, très vite, c'est devenu vraiment une passion, quoi. Mmh. Voilà.
Trop bien. Et je sais que justement depuis ce moment-là, il y a eu plein de virages, plein d'évolutions, plein de différentes choses qui se sont passées. Et, ouais. Et ça a changé plein de formes pour toi. C'est assez marrant d'ailleurs de voir l'évolution à chaque fois, de se dire tu pars de ce bagage que tu disais de prof de français entre guillemets, d'en arriver où t'en es aujourd'hui.
Oui, complètement. Il y a eu vraiment 10 000 virements de positionnement. Donc au début, c'était de la création de site web avec avec Lucas. J'ai tenté de faire du web design. Ça a été un vrai fiasco. Ça a été un échec total et cuisant. J'ai pas la fibre artistique. J'ai fait un peu de tout en fait. Hein. Après, j'ai découvert très rapidement Stan Leloup notamment. Et donc j'ai découvert le marketing. Et donc là, ça a été une vraie révélation, en fait. Ça a été, mais c'est génial. C'est génial. Donc, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait de la rédaction web, du community management, du copywriting. Enfin, je suis vraiment passée par plein de phases de prestations, en fait. Et à un moment donné aussi, j'ai commencé à documenter notre aventure. Finalement, j'avais un blog, tu vois, sur lequel je racontais nos histoires de digital nomades. Et bah, j'ai commencé à monétiser aussi ce blog, parce que quand t'es un peu dans le milieu, tu te dis mais moi aussi je veux faire de la formation en fait. Il n'y a pas de raison. Voilà, donc j'ai aussi touché au mode infoprenariat qui m'a beaucoup plu, que j'ai quand même arrêté pour reprendre sur notre voie qui est celle d'aujourd'hui. Donc ouais, j'ai touché à plein de trucs, de l'infoprenariat, du copywriting, plein de trucs avant d'en arriver où je suis aujourd'hui.
Ouais, et justement, complètement. Et j'imagine qu'il y aura des évolutions encore. On en parlait rapidement avant de commencer à enregistrer. Il y aura des nouveaux virages, comme tu dis, des virements de bord, je crois on appelle ça en voile même, non?
Exactement, ouais, c'est ça.
Cool, je vois que mon vocabulaire nautique est à jour, très bien. Et du coup, justement, on en vient à ce que tu dis, la forme de ce que tu fais aujourd'hui. Aujourd'hui, tu te définis comme une online business manager. Et je suis curieux pour les personnes qui ne sont pas du tout dans notre écosystème proche du business en ligne, de l'infopreneuriat dont on a un peu parlé déjà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste exactement ce terme-là? Parce que c'est pas un métier non plus ultra répandu que beaucoup de gens connaissent, je crois.
Oui. Donc, en français, c'est gestionnaire d'entreprise en ligne. Ça fait moins sexy, oui. Mais c'est peut-être plus compréhensible. En gros, l'idée... alors, moi, je suis online business manager en opérationnel. C'est-à-dire vraiment en mode chef de projet, manager, avec un infopreneur avec qui je travaille vraiment à mi-temps, en fait. Et le reste du temps, je le fais en consulting. Donc, c'est-à-dire que je vais accompagner les entrepreneurs dans leur revirement, disons plutôt dans la croissance, c'est-à-dire de comment je passe de solopreneur à vraiment véritablement dirigeant, chef d'entreprise avec une équipe, etc. Donc, je les accompagne plus sur la partie, OK, on met tout à plat, on revoit le système, on revoit la structure, on revoit les fonctionnements, les outils, etc. Concrètement, business manager, c'est le bras droit, on appelle ça souvent bras droit. C'est vraiment la personne qui va accompagner l'entrepreneur sur toute la partie stratégique. C'est-à-dire, je vais accompagner le chef d'entreprise dans toute la partie stratégique et je vais être garante en fait de toute la partie opérationnelle. C'est-à-dire, c'est moi qui vais gérer la partie opérationnelle, gestion de projet, management, plan d'action, planification, s'assurer que tout fonctionne bien, les rétro-plannings, etc., etc. Ouais. Voilà, je sais pas si c'est clair ou pas.
Ouais, c'est clair et je pense qu'on peut donner un exemple pour illustrer même du coup en ce moment on travaille ensemble avec Sonia et la mission de Sonia auprès de ma petite entreprise qui commence à bien se développer sur tous ces sujets autour de l'indépendance, c'est de venir auditer notre système de gestion de projet et de gestion de tâches. Là où effectivement moi je sentais que c'est pas le truc où je m'épanouis le plus. Et c'est pas non plus l'endroit où j'ai le plus de valeur ajoutée. Et comme je sais que tu fais déjà partie d'autres plus grosses machines que la mienne, on peut dire les choses comme ça, que oui. T'as un regard avec une bonne expérience sur le sujet. Et du coup, Sonia, elle est en train de nous aider à retravailler et reconstruire une nouvelle proposition. On est en mode bêta test sur une nouvelle façon de gérer les projets et gérer les tâches en interne entre moi, Diane et les autres personnes qui viennent travailler avec nous. De temps à autre. Du coup, Diane, pour ceux qui ne savent pas qui est Diane, c'est ma justement magnifique bras droit. Ça fait un an qu'elle travaille avec moi. Okay. Et du coup, Sonia est en train de nous aider sur ça, comment on organise les process là-dedans, comment on structure tout le système de gestion de projet, comment on organise les temps d'interaction entre Diane et moi, ma place là-dedans en tant que CEO, même si c'est encore neuf pour moi de dire que je suis un CEO, c'est assez drôle. Mais du coup, voilà, un exemple concret de ce à quoi ça ressemble, du coup, une mission pour toi.
Exactement. Ça va vraiment être toute la partie, on pose à plat, là, on met le cerveau un peu sur le bureau et on voit ce qu'il y a dedans. Et on reconstruit un système. Parce que quand on passe de « je travaille tout seul » à « je travaille en équipe », il y a plein de changements. Il y a des changements à la fois technico-technique, hein, comme tu le dis, sur quel outil on va travailler, comment on va communiquer en équipe, etc. Mais aussi, et comme tu l'as très bien dit, il y a plein de changements aussi, mindset, finalement, état d'esprit. C'est vraiment un cheminement, quoi, de passer de solopreneur à dirigeant, avoir vraiment une équipe, etc. Et puis, on n'en a pas parlé jusque-là, mais il y a aussi toute la partie, je pense qu'on en parlera un peu moins aujourd'hui, mais il y a toute la partie aussi recrutement, poser à plat les besoins de l'entreprise, qui on recrute, comment, pourquoi, quand, etc.
Ouais. Voilà. Ouais. Bah, peut-être qu'on atterrira dessus, parce que ça fait partie des sortes de systèmes à créer, mettre en place, des effets de levier qui deviennent des choses intéressantes et importantes quand on est en phase de croissance. Mais déjà, je voudrais m'arrêter sur ce que tu dis sur la notion, le passage de t'es seul à t'es plusieurs. Et moi, un endroit où je vois que ça me fait beaucoup travailler, c'est que jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait quand même 5 ans que je suis en mode entrepreneur et que je me suis lancé à mon compte, le système de fonctionnement que je me suis construit de base, c'est tout est dans ma tête et j'ai besoin de rien d'autre que ma tête.
Alors que là, maintenant, où on arrive à un stade où il faut que l'information circule au maximum et qu'à tout moment, cette information qui normalement est que stockée dans ma tête soit accessible à d'autres êtres humains sans avoir besoin de me consulter, idéalement, pour que je protège mon temps, bah, je vois que c'est pas évident, tu vois, de sortir les trucs, d'être dans cette démarche de tout documenter, tout écrire, prendre des moments exprès pour ça. Et du coup, je vois que bah, voilà, ça, c'est une nouvelle discipline que je dois avoir. Et je pense qu'elle est pas évidente quand on passe ce cap-là.
C'est un des gros challenges de tous les entrepreneurs solo qui passent en recrutement en équipe. Et d'ailleurs, enfin, c'est justement une des petites astuces organisation / productivité qu'on pourrait donner aujourd'hui, c'est que plus tôt on s'y prend, même quand on est tout seul, plus tôt après ce sera facile de passer le cap. Restera, je pense, toujours le cap mindset, parce que ça, c'est vraiment du travail sur soi et de vraiment de passer des caps en mode, ok, maintenant je passe un autre palier dans mon entreprise. Mais en termes opérationnels, si on a déjà ressourcé plein de choses, des process, des pensées, des fonctionnements, etc., c'est après de aussi, enfin, c'est plus simple, quoi, de transmettre à d'éventuels collaborateurs, en fait. Donc, ça peut être premier conseil aujourd'hui. Mais après, t'es clairement pas le seul, hein. Je travaille avec plein d'entrepreneurs qui ont tous ce problème-là. Et moi, la première, hein. C'est-à-dire qu'on a, on a des choses qui sont dans nos têtes, quoi. C'est tellement simple et limpide pour nous.
Bah ouais.
Que, on veut pas l'intérêt, on pense même pas à le noter.
Ouais, et clairement. Voilà, ouais. Mais je te rejoins sur à quel point, je pense que c'est une pratique, en fait. Dans le sens où, si de base, mon fonctionnement naturel, c'était genre, toutes les semaines, je fais un bilan de la semaine, et je commence déjà à me comporter comme si il y avait d'autres personnes à qui je devais rendre des comptes, qui seraient une éventuelle équipe, et je me dis, ça peut être intéressant pour les personnes qui nous écoutent, si elles se projettent déjà en mode « je sais que j'aurais envie d'avoir une équipe dans le futur et mon objectif à un moment, c'est d'avoir une équipe autour de moi bah », déjà, dès maintenant, ça peut être cool d'avoir ces process de genre un bilan hebdo, développer bien les tâches à faire comme si on devait les déléguer à quelqu'un et aller dans ce niveau de précision, quoi. Et du coup, je serais curieux, si on zoome sur ce moment-là, ce serait quoi déjà les bonnes pratiques, à part peut-être ce bilan hebdo où tu te poses des questions et tu poses un peu qu'est-ce qu'on a fait cette semaine, qu'est-ce qu'on fera la semaine suivante, s'il y a d'autres pratiques très concrètes que tu dirais qui seraient intéressantes d'intégrer?
Alors, premièrement, ne pas se mettre la rate au courbouillon. C'est-à-dire que c'est pas grave quand on est tout seul si toutes les semaines on fait pas son bilan, etc., etc. Par contre, je pense la pratique hyper importante à avoir, et qu'on ait une vision de toute façon d'équipe ou pas, c'est d'avoir du temps de planification, en fait, vraiment du temps où on fait vraiment le point, etc., et d'identification. Donc ces moments-là, en fait, c'est se dire ok, est-ce que les choses que j'ai fait, par exemple, cette semaine, elles sont processées quelque part? Si je devais le refaire demain, est-ce que ou le transmettre demain à quelqu'un, par exemple, cette semaine, j'ai programmé des posts Instagram, je fais ça depuis 6 mois. Est-ce que si demain, je dois le confier à quelqu'un, ça serait facile, ou est-ce qu'il faudrait que je fasse tout le process avant de partager, en fait? Donc, c'est vraiment des moments comme ça de planification, même si c'est pas régulier, mais se poser à plat de temps en temps quand on travaille sur l'entreprise, et vraiment faire le point sur ses process. Vraiment travailler ses process, premièrement.
Ok. J'ai bien envie de zoomer sur ce truc des process et des systèmes avant qu'on passe à un autre sujet, parce que je suis sûr il y en a plein, mais je le trouve intéressant parce que, tu vois, je me questionnais justement en préparant l'épisode, je me disais, est-ce que ce biais que je pense on a parce qu'on travaille à fond dans le mode, dans le monde entreprise en ligne, donc de toute façon on a des incentives, on a des enjeux de processiser au maximum parce que ça fait qu'on peut produire plus, on a plus de temps en dispo pour faire d'autres choses, notamment sur de la création, et du coup sur la marge à la fin c'est intéressant aussi, et donc on cherche à tout systémiser, utiliser des outils pour automatiser, etc. Et donc il y a un gros enjeu de créer des process ultra simples et hyper clairs pour que n'importe qui puisse les reprendre derrière. Et je me demandais, est-ce que c'est un enjeu, à ton sens, du coup, je suis curieux de ta réponse, pour un indépendant, quelqu'un qui est vraiment seul, peut-être qui veut rester seul, même sur le long terme, de processiser et de créer ce genre de système en les documentant quelque part ou non? Et si tu penses que c'est pertinent, ce serait quoi les avantages de ça?
Ok. Alors, déjà, première mise en garde, c'est qu'on croit souvent qu'on veut rester seul.
Jusqu'à ce que.
En fait, jusqu'à ce que. Honnêtement, y a plein d'entrepreneurs que j'ai rencontrés, c'était le cas, et qui se retrouvent un peu en mode mince, j'avais pas cette vision, et en fait, elle est en train d'arriver. Et allez, on va partir du principe que cet entrepreneur a une vision vraiment solo, et c'est super ok. Qui ne peut pas forcément avoir d'équipe et que ça n'arrive pas. Je pense quand même que c'est intéressant de processiser certaines choses pour, comment dire, formaliser. Pour, en fait, c'est vraiment de la productivité, là, pour le coup. C'est-à-dire des tâches qu'on a tendance à faire vraiment souvent. Programmation Instagram, articles de blog, enfin vraiment des choses qui reviennent toutes les semaines. Alors, c'est pas ultra nécessaire d'avoir un process millimétré ou quoi que ce soit pour le partager ensuite, mais ça permet d'aller plus vite et d'identifier, en fait, c'est surtout à ça que ça va servir quand on reste solo, ça va être d'identifier les moments, les endroits surtout où on peut automatiser, en fait. Et c'est intéressant quand on est solo, surtout quand on est solo et qu'on ne souhaite pas déléguer des choses, d'aller automatiser des petites choses dans son business. Voilà.
Ouais, du coup, le simple fait de se poser pour se demander c'est quoi l'étape 1, c'est quoi l'étape 2, c'est quoi l'étape 3, on peut ensuite aller se dire, attends, est-ce qu'il n'y a pas un outil qui pourrait faire ça à ma place pour que je gagne du temps et du coup automatiser là-dessus, quoi.
C'est ça. Et ça va faire gagner du temps aussi dans la réalisation des tâches. Par exemple, l'onboarding d'un client. Si on a noté tout le process, ça va quand même beaucoup plus vite de copier-coller les mails, d'avoir toujours le même template pour l'accueil du client, pour la création du dossier, pour, enfin, j'en sais rien, tu vois, chacun son métier. Mais ça permet de gagner des heures précieuses. Enfin, moi, je sais que, par exemple, les consultings que je fais aujourd'hui, le tout premier que j'ai pris, j'ai dû mettre peut-être 5 ou 6 heures à onboarder le client la première fois parce qu'il fallait créer les questionnaires, parce que fallait créer les mails, etc. Et là, aujourd'hui, c'est tout simple. J'ai une liste. Tac, 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 tac. Je suis mon flow, tout simplement, parce que je n'onboarde pas forcément des clients toutes les semaines aussi. Donc, des fois, il peut se passer plusieurs semaines entre et je vais pas forcément me souvenir de absolument toutes les petites étapes auxquelles j'ai pensé quand j'ai pensé à ma relation client, enfin, à l'expérience client que je voulais faire vivre. Et comme ça, je les ai toutes et ça va super vite, quoi. En tout cas, je mets pas 6 heures, je mets à peu près 1 heure, quoi.
Ouais, ouais. Et j'allais venir sur ce point, justement, du poids mental que ça peut représenter, parce que tu le dis super bien. Si ça fait longtemps que tu l'as pas fait, même si tu avais l'habitude avant, ça se trouve, tu vas oublier. Et rien que le poids de se demander, ah oui, c'est vrai, comment je fais ça déjà? Est-ce que j'ai rien oublié? Et qu'on va vouloir checker et tout. Rien que cet espace mental que ça prend, je pense que ça nous empêche de mettre cette énergie et cet espace mental au service d'autre chose, quoi. Donc, c'est clair que je pense, dans un souci de... Tu vois, dans les courants minimalistes, ils parlent de enlever un maximum toutes les micro-décisions qui, en s'accumulant, prennent beaucoup d'énergie. Tu vois, genre, dans le minimalisme, ça veut dire avoir, pour certains, tout le temps le même t-shirt. Comme ça, tu te poses même pas la question de quel t-shirt tu mets. C'est un peu moins extrême dans notre cas sur les systèmes, mais c'est un peu cette même idée, quoi.
Exactement. Exactement. Et dans les autres choses qu'on peut mettre en place, réfléchir à pour gagner un peu de temps finalement sur la délégation, c'est lister, avoir une liste exhaustive des tâches qu'on réalise quotidiennement. En fait, si on traque déjà son temps, ses tâches, etc., c'est un gain de temps précieux pour la suite. Parce que une des premières choses que je recommande quand on vient me voir et qu'on me dit « Sonia, je sais qu'il faut que je délègue, mais je sais pas par où commencer, je sais pas ce que je dois déléguer, etc. » Le premier conseil que je donne, c'est « traque tes tâches ». Donc, si tu le fais déjà, c'est bien. Alors après, on peut aller le traquer de manière approfondie et à la limite, ça, on peut le travailler dans un second temps quand on est vraiment prêt à déléguer. C'est-à-dire que en mode approfondi, on va se demander quel secteur d'activité cette tâche c'est, quel secteur celle-ci c'est, est-ce que c'est du marketing, est-ce que c'est du ci, est-ce que c'est du ça, est-ce que c'est de la publicité, etc. Comme ça, on va en fait... donner des tendances en fait aux besoins qu'on a dans l'entreprise. On peut aussi avoir l'angle de l'énergie. Est-ce que cette tâche draine mon énergie? Est-ce que cette tâche me donne de l'énergie? On peut aussi travailler sur sa zone de génie et avoir une, en tout cas sur ses forces. On peut faire le bilan des forces, par exemple, travailler sur ses forces, connaître ses forces et savoir du coup cette tâche elle est plus dans mes forces, celle-ci elle est plus dans les forces plus bas, dans les faiblesses on va dire. Donc après on peut aller analyser ça, mais déjà dans un premier temps, traquer son temps, traquer ses tâches, ça permet d'avoir une très belle vision. Et même pour reprendre, tu vois, le même schéma de tout à l'heure, c'est-à-dire même si je ne veux pas déléguer ensuite, à quoi ça peut me servir, déjà d'avoir conscience de ce qu'on fait. Parce que c'est pas toujours évident de se rendre compte de concrètement ce qu'on fait dans nos semaines, et du coup de travailler sa productivité par rapport à ça, se dire waouh, mais en fait je passe 10 heures sur ma boîte mail, c'est pas productif. Alors soit il faut que je le délègue, soit je vais pas le déléguer, mais par contre il faut que je remédie peut-être à mon fonctionnement sur les mails par exemple. Voilà. Et ça peut servir aussi à se rendre compte du temps qu'on passe avec les clients. Quand on est en prestat de service, parfois on passe plus de temps que ce que l'on le croit. Donc ça permet aussi de réajuster, peut-être de réajuster ses tarifs aussi, hein, se rendre compte qu'on a vendu un truc, on pensait y passer 10 heures, on y a passé 25 heures. Ça arrive à tout indépendant qui se respecte.
Grave.
Voilà. Et donc du coup, se dire, attends, là, soit en fait, il faut que je me forme parce qu'en fait j'ai encore trop de lacunes pour délivrer ce service, ou en fait je le vends, pour moi c'est 10 heures, mais non, je passe 25 heures dessus, donc il faut que je réévalue mes tarifs. Voilà, ça peut servir aussi à ça.
Ouais, ça me donne envie de désempacter un peu plein de choses que t'as dit, parce qu'il y a plein de trucs qui sont hyper intéressants. Et le premier truc auquel ça me fait penser, tu vois, c'est la sensation que je pense beaucoup de personnes ressentent des fois en fin de semaine, que moi j'ai ressenti plein de fois par le passé. Tu vois, c'est la sensation de épuisement, mais accompagné de je sais plus ce que j'ai fait. Tu vois, genre je suis épuisé, j'ai l'impression d'avoir bossé comme un dingue, et en même temps j'ai la sensation de pas avoir avancé parce que j'ai pas de clarté sur ce que j'ai fait. Je sais pas si toi t'as déjà vécu ça.
Oui, je pense qu'on l'a tous vécu complètement, cette sensation de t'as bossé toute la semaine, genre t'as fait du temps plein, hein, disons-le clairement. Tu t'as commencé à 8h, t'as terminé à 22h, ou 20h, et tu t'es même fait de temps en temps des nocturnes. Mais par contre, si on te demande, t'es pas capable de dire quelle tâche concrètement tu as faite.
Ouais, et c'est horrible cette sensation.
Ouais, c'est pas agréable du tout. C'est pas agréable du tout. Je pense que les problématiques planification, organisation, quand on ressent ça, c'est que on n'a pas bien planifié sa semaine. Ce que je veux dire, c'est que ça veut dire qu'on a c'est une théorie. Enfin, je veux dire, c'est un angle, hein, d'attaque. Ça peut être plein d'autres choses.
Une hypothèse.
Principalement. Une hypothèse, pardon, pas théorie, mais principalement, je dirais que la majorité du temps, c'est ça. C'est que on n'a pas bien posé nos blocs temps, ou on ne les a pas bien respectés. Soit l'un soit l'autre, tu vois.
Ouais.
Donc c'est du coup la nécessité de se poser un moment de planification, de gestion, de tout mettre à plat, etc. Et le tracking, il va aussi te permettre en effet de te rendre compte de ce que tu as fait. Alors ça demande une discipline aussi, parce que du coup il faut, à chaque fois que tu changes de tâche, avoir la discipline de mettre la nouvelle tâche que tu es en train de faire sur ton tracker de temps.
Ouais.
Mais ouais, ça aide pas mal.
Bah, complètement. L'autre chose que je voulais dire, c'est que, avec ce que tu me racontes, ça me permet de me dire que, en fait, ça te donne la matière première nécessaire pour analyser, effectivement, comme tu disais, là où tu investis ton temps dans ton business. C'est-à-dire, si on regarde ton business comme un système et qu'on prend du recul dessus sur le fait que ce soit que toi, ça te permet de te dire, ah tiens, ce business-là, actuellement, à date, sous cette forme, il consomme mon temps comme ça. Et ensuite, on peut se demander, quand on voit ça, est-ce que c'est OK pour moi, en fait? Est-ce que c'est OK pour moi que mon business actuel consomme mon temps comme ça? Et si c'est pas OK pour moi, comment je fais pour changer ça? Et là, effectivement, il y a plein de voies. Il y a la voie de l'automatisation, de la délégation, de peut-être changer aussi la forme de ses offres et changer la forme de ce qu'on propose. Parce que ça se trouve, c'est là le problème. Enfin, en tout cas, là, l'endroit où on a envie de shifter. Et effectivement, tant que t'as pas la matière première, c'est hyper dur de t'en rendre compte de ça. T'as pas les outils, en fait, pour vraiment prendre une décision éclairée.
Complètement. C'est de la data, en fait, que tu viens récolter. Exactement comme en stratégie marketing, sauf que là, on est dans la stratégie gestion. C'est-à-dire, dans la stratégie marketing, tu vas récolter de la data, quel mail a fonctionné, le taux d'ouverture, tu vois, tiens, ce sujet, il a plu, ce sujet, il a moins plu, j'ai fait un A/B test, ce sujet, il a été ouvert, celui-ci, il n'a pas été ouvert, etc. Mes statistiques sur Instagram, etc. Et avec tous ces stats-là, qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Tu vas aller prendre tes décisions. Tu vas dire, OK, en fait... Instagram, c'est un réseau qui marche pas pour moi, donc je vais aller tester LinkedIn, etc., etc. Mais en fait, là, c'est pareil. C'est-à-dire que tu vas prendre toutes ces data-là et tu vas prendre tes décisions avec, exactement que tous les exemples que tu as donnés sont très bons. C'est-à-dire, soit faut déléguer et automatiser, mais ça peut aussi très bien être « Ah, mais en fait, les offres telles que je les propose aujourd'hui, ça me va pas. En fait, il faut que je revoie aussi toute ma stratégie, etc. Ouais. » Et un dernier point sur les finances. Tu vois, je disais tout à l'heure, ça peut te permettre de revoir aussi tes tarifs, te rendre compte que tu passes plus de temps, etc. Ça permet aussi de voir son vrai taux horaire. C'est-à-dire que quand tu traques 100% de ton activité professionnelle, tu vas traquer même quand tu travailles pas pour tes clients. Donc du coup, à la fin du mois, à la fin du trimestre, à la fin de l'année, tu es capable de prendre le nombre d'heures, de le diviser par ton chiffre d'affaires et voir combien réellement en fait tu vaux. Alors, c'est pas forcément que tu vaux, mais ce que tu as gagné vraiment en termes de taux horaire. Et ça fait souvent très peur. Donc ça fait souvent très peur, donc ça permet aussi de bosser un peu sa tarification, tu vois, par rapport à ça.
Ouais. Voilà. Et du coup, ce qui est marrant avec ça, c'est que du coup, avec cette équation que tu viens de nous donner, ça me donne une autre manière de mesurer comment est-ce qu'on peut développer notre chiffre d'affaires. J'avais fait une newsletter récemment sur le fait qu'il y a trois grandes manières de développer ton chiffre. Il y a plus de clients, donc t'augmentes le nombre de transactions parce que t'augmentes le nombre de clients. Il y a augmenter le panier moyen, dans le sens du coup où tu fais en sorte que les clients que tu as, ils te payent plus. Ou il y a augmenter la récurrence des transactions. Donc le fait que tes clients actuels, ils te payent plus nombreuses fois. Mais avec l'équation que tu me donnes là, où tu dis, du coup, ta rémunération, c'est le temps que tu as investi divisé par le chiffre d'affaires que je génère. Du coup, j'entends qu'en gros, là, il y a un sujet de marge qui est intéressante, où tu peux te dire comment je fais pour générer le même chiffre d'affaires en diminuant le nombre d'heures. Et du coup, t'optimises ton taux horaire là. Et je pense que c'est ça qui mène à effectivement un peu plus l'épanouissement qu'on peut rechercher quand on est indépendant, de se dire bah voilà, j'ai un tel niveau de vie, pour générer ce niveau de vie, la forme actuelle de mon business, ça me demande X heures. Et du coup, quand tu as la matière première, ce que ça représente, c'est X heures, tu peux optimiser et trier dedans, appliquer la fameuse loi Pareto où tu vas dire ok, bah, les 20% qui génèrent le plus de chiffre d'affaires dans mon temps investi, c'est ceux-là, comment je fais pour éliminer les autres ou investir plus sur ceux-là, etc., etc., quoi.
Exactement, c'est ça. Tu fais ton petit travail de business manager en fait pour toi-même, à aller un peu calculer vraiment ta rentabilité, etc. Ouais, tout à fait. Et ça te permet de prendre des décisions. Ça te permet de prendre des décisions plus facilement.
Ouais, j'ai envie qu'on.
On peut pas prendre de décisions quand on n'est pas. Pardon, excuse-moi.
T'en fais pas. Vas-y, t'as le dire.
Mais j'allais juste te dire, on peut pas prendre de décision quand on n'est pas éclairé, quoi. Si t'as pas la data, toutes les décisions que tu prends, elles sont vraiment au pifomètre, en fait.
Ouais. D'où l'importance de tout ça, et ça me fait penser du coup d'où l'importance aussi de l'autre chose dont tu parlais, qui est la planification, qui est un exercice où moi j'ai jamais été incroyablement bon là-dedans. Il y a une vidéo qui a quelque part sur mon site d'une fois où Julie Accoudère avait pris le contrôle de mon calendrier. Pour me planifier tout mon calendrier du mois en avance. Et moi, c'est pas un truc que je faisais à ce stade. Mais là, on va encore un cran plus loin dans le travail qu'on fait ensemble là, parce que du coup, pour le trimestre, on a testé de planifier toutes les tâches du trimestre en avance, même si du coup, les objectifs du trimestre ont un peu évolué dans la dernière semaine. Mais l'enjeu, c'est de prendre cette régularité, de planifier 3 mois de calendrier en avance, ce qui est très nouveau, et peut-être que les gens qui nous écoutent vont se dire « What ? Planifier mon calendrier 3 mois à l'avance sur tout ce que je vais faire, c'est ouf !» Je suis curieux que tu nous parles un peu de pourquoi cette démarche.
Ouais. Alors, tu l'as très bien dit, ça peut évoluer. On n'est pas figé. En fait, il n'y a rien qui est figé. Des fois, l'organisation, la planification, etc., ça fait un peu peur, parce qu'on a cette sensation que quand on pose sur le calendrier, bah, ça peut plus bouger, et comment je fais si j'ai pas l'énergie de faire ça aujourd'hui, et comment je fais, etc. C'est pas un problème, on peut très bien remodeler. Parenthèse et à titre perso, mon calendrier, mon agenda hebdomadaire, mes blocs temps, bougent constamment. Je les bouge tout le temps en fait en fonction de l'énergie, de ce que j'ai envie de faire, etc. Bon, des fois il y a des rendez-vous qui sont pris, ils bougent pas. Mais voilà, ça peut bouger et ça peut bouger à toutes les échelles. Ça peut bouger à l'échelle du trimestre, à l'échelle du mois, à l'échelle de la semaine, à l'échelle de la journée. C'est pas un problème. Par contre, le fait d'aller s'organiser comme ça sur du long terme, ça permet en fait vraiment d'être plus efficace, plus organisé, d'avoir une meilleure vision des besoins, des ressources dont on va avoir besoin sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Si on parle de délégation, par exemple, ça va nous permettre de savoir quelles sont les ressources humaines dont on va avoir besoin Par exemple, je prévois un gros lancement. Qu'est-ce que je vais avoir besoin de recruter? Quelqu'un qui va m'aider pour le copywriting, le marketing? Est-ce que je veux quelqu'un qui m'aide sur les emails, qui me monte les vidéos ou ce genre de choses? Et quand bien même, en fait, on travaille tout seul et qu'on n'a pas forcément envie, besoin de déléguer, le fait de planifier sur le long terme, ça va vraiment te permettre de savoir le fait que tes projets soient réalistes ou pas. Parce qu'on a tendance à mettre des tonnes et des tonnes d'objectifs, de projets, etc. Ça rentre pas.
Ça rentre pas,
les gars.
De qui tu parles? Voilà.
Plein d'entrepreneurs, en vrai. Mais ouais, en fait, c'est ça. Ça permet de se rendre compte du temps dont on dispose, en fait. Donc, l'idée de la façon, enfin en tout cas comment je travaille et comment du coup on travaille ensemble là sur cette planification trimestrielle, on va prendre tout ce dont on a envie, nos projets, nos objectifs, ce qu'on n'a pas fait le trimestre dernier, qu'on a envie de faire ce trimestre, etc. Ok, et on va recentrer tout ça en mode stratégiquement, de quoi j'ai besoin vraiment, quel est mon objectif principal pour ce trimestre-là, qu'est-ce que je dois réaliser en fait. Et à partir de là, tous les projets, les idées, les objectifs qu'on avait, on va faire en sorte qu'ils répondent déjà à cet objectif-là. Si ça répond pas, c'est pas la peine, on le met pas en fait. Ça fera l'objet d'un prochain trimestre. Ou c'est peut-être finalement quelque chose, une idée qu'on a eue, mais c'est pas finalement, tu vois, quelque chose qui va vraiment faire décoller notre entreprise, ou toujours le fameux 80-20. Finalement, ce serait épuisé à faire ça alors que ça ne rapporterait rien. Attention à pas avoir trop d'objectifs. Idéalement, c'est 3, maximum 5. Et on va dire que les deux autres, c'est des choses qui sont secondaires, idéalement, tu vois. Si on est infopreneur et qu'on a un gros lancement, et dans ce cas, on a un objectif. voilà, parce que souvent, c'est un lancement, tous les infopreneurs le diront. C'est pas juste le temps du lancement, hein, y a des mois de préparation, etc. Donc, faut vraiment le prendre en compte. Et on va aller en fait préparer à ce moment-là. Donc j'ai posé mes trois objectifs principaux, mes trois projets principaux qui répondent à mon objectif du trimestre. Et du coup, je viens aller approfondir un peu ça. Objectif 1, concrètement, quels sont les résultats clés, les KPI, qui vont me montrer que ce projet est réussi ou pas. Déjà, ça donne une idée un peu de ce qui nous attend. Par exemple, je me lance sur Instagram, objectif 1. Projet 1, me lancer sur Instagram. Comment je sais que j'aurai réussi? J'aurai X posts, j'aurai X abonnés, j'aurai... déjà, un des KPI, j'aurai X posts, ça donne des idées sur le travail qu'il va y avoir à faire. on sait à peu près qu'il va falloir bosser là-dessus, etc.
Trouver les idées, faire les photos si c'est des photos, créer les visuels si c'est des visuels, écrire les textes, patati patata, programmer dans l'outil de programmation.
Exact. Ensuite, on va noter les obstacles qu'on peut rencontrer. Qu'est-ce qui va m'empêcher de réaliser cet objectif? Et en face de chaque obstacle, évidemment, on se demande comment on peut le contourner. Sinon, ça sert à rien. Vous dire,
un obstacle. Donc, oups.
Dommage. Donc, on va se demander comment on peut le contourner. Et généralement, quand on répond à ces questions de comment je peux contourner l'obstacle, ça nous donne aussi des idées, des pistes de tâches à accomplir. Par exemple, alors là, j'ai rien qui me vient comme ça, mais on va reprendre notre exemple d'Instagram. Obstacle, je manque de temps. Je manque de temps, je vais pas avoir le temps de faire 50 posts Instagram sur le trimestre. Comment je peux contourner ça? Alors, me donner du temps en plus, oui, mais comment, concrètement? Ok, en fait, je peux, par exemple, prendre une prestation en moins, ou je peux déléguer, ou je peux, essayer d'automatiser une partie. Donc, ça veut dire que du coup, si par exemple je me dis ok, la solution que je mets en face moi, c'est celle d'automatiser une partie, donc programmer des posts, etc., ça veut dire qu'il va falloir que je me programme aussi un temps pour apprendre à automatiser cette partie-là, en fait. Donc ça veut dire que je vais me mettre en bloc temps d'une demi-journée sur regarder les possibilités d'automatisation, etc. Voilà. Et après, l'idée, ça va être de lister vraiment le plus exhaustivement possible les tâches du projet et essayer de les timer, de d'estimer le temps au plus juste, tout en prenant de la marge. Toujours prendre du surplus, parce qu'il se passera toujours des choses qu'on n'a pas prévues, des tâches qu'on a oubliées, etc. Et ça donne une idée. Donc déjà, en fait, ça permet de... Ces programmations à 90 jours, elles permettent de voir un peu à quoi va ressembler le trimestre et de se dire, ah ouais, mais en fait, là, concrètement, j'ai 500 heures de travail, ça rentrera pas.
Ouais.
Et donc, ça permet de faire des choix, de faire le tri, etc. Et ça peut très bien être de se dire, ok, mais en fait, tout ça, je veux le réaliser, j'ai du budget, j'ai de la trésor, vas-y, on investit, on recrute quelqu'un, etc. Ou ça peut être... non, en fait, on va y aller plus tranquillement, piano, et on y va step by step. Et en fait, ce projet-là, on le fera peut-être le trimestre prochain, etc.
Voilà. Et je pense que, du coup, petite invitation pour les gens qui nous écoutent, mettez pause, recommencez à écouter tout ce que Sonia a dit, prenez des notes, parce que clairement, c'est la méthode qu'on est en train d'appliquer nous, et ça fait une grosse différence, même si, encore une fois, comme tu l'as dit au début, c'est une vraie discipline, parce que ça demande de vraiment prendre le temps de pas être dans l'action, la production, j'avance, et de se dire, en fait, je suis vraiment juste en train de réfléchir à, pour réaliser telle chose, c'est quoi tous les petits trucs que je prends pour les découper, et ensuite les organiser dans le bon ordre, ah tiens, il faut que je fasse ça avant de faire ça, de voir les ordres logiques, et je trouve que c'est assez, j'allais dire apprenant, mais formateur plutôt, de vraiment aller se rendre compte de tout ce qu'il y a à l'intérieur de tel ou tel objectif, à l'intérieur d'un lancement, par exemple, et ce genre de choses, et de le noter, je trouve que ça nous permet aussi de mettre en conscience nos méthodologies sur ce qu'on fait. Souvent, c'est un sujet dont je parle pour les freelances quand on bosse avec des clients, de bien réfléchir et de bien mettre en valeur la méthodologie de travail qu'on applique avec nos clients pour les emmener d'un point A à un point B. Et je trouve que c'est super cool de le faire pour nous-mêmes aussi, parce qu'encore une fois, quand on pose notre méthodo, ça nous permet d'avoir les matières premières, de la faire évoluer, de voir où ça bloque, de voir qu'est-ce qu'on peut mieux faire, et de se dire, ah tiens, ok, au dernier lancement, on avait fait comme ça, je vois que ça, il n'y a pas eu les résultats de ouf là-dessus, du coup, on va pouvoir le changer, le faire plus tôt, plus tard, d'une autre forme. Donc ça, encore une fois, ça donne de la matière première, comme on disait au début, pour analyser et pour faire évoluer dans le bon sens par la suite.
Exactement. Il faut avoir ces temps, mais de toute façon, c'est les temps de je travaille sur mon business hein, qui sont indispensables. Et je dirais que ces temps sur le business, c'est des temps qui doivent être consacrés à la stratégie, au marketing, créer de nouvelles offres, tout ça. Et en effet, régulièrement, il faut intégrer aussi un petit peu de gestion de projet. C'est important. Et donc, dans ces gestions de projet, on va avoir... Enfin, moi, je propose trois échelles de temps. Donc, il y a le trimestre, le mois et la semaine. Alors, quand on est en équipe, ces trois temps, ils sont vraiment, vraiment, vraiment indispensables parce qu'il faut qu'il y ait une communication, qu'on sache vraiment ce qui se passe d'une semaine à l'autre, etc. Qu'est-ce qu'a fait X, qu'est-ce qu'a fait Y, à quel moment, moi, j'interviens sur cette tâche, etc. Quand on est solo, je dirais que le point hebdo, si on le fait pas vraiment de manière hyper méticuleuse, etc., c'est pas très grave, mais les temps trimestriels et mensuels, ils sont vraiment, vraiment indispensables. Et le temps hebdomadaire, à la limite, s'il est consacré, par exemple, plus à seulement, entre guillemets, préparer la semaine suivante, c'est déjà très bien. C'est pas grave si on fait pas de stratégie organisationnelle toutes les semaines. Voilà.
Ouais, et effectivement...
Voilà pour ça.
Ouais, effectivement, prendre le temps tous les trimestres de se faire un vrai temps de réflexion sur le bilan du trimestre passé, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, et ensuite se projeter dans le futur sur ok, comment on utilise ça pour préparer le trimestre d'après, c'est quoi nos objectifs principaux, c'est quoi les projets qui nourrissent l'objectif, et c'est quoi toutes les tâches à faire là-dedans. Mais je trouve ça précieux parce que c'est aussi des temps où on prend conscience de nos avancées et où on peut célébrer aussi. Parce que souvent, je pense, on se perd dans « j'ai la tête dans le guidon, j'avance, le prochain projet, le prochain projet, le prochain projet. » Et on se rend pas compte, en fait, de tout ce qu'on construit, de tout ce qu'on fait, de toutes les avancées qu'on a, de ouais, toutes les choses de dingue qu'on fait, en fait. Et je trouve que c'est hyper précieux de s'en rendre compte, parce qu'on peut très bien facilement tomber dans l'espèce d'autoflagellation de « t'en fais pas assez », alors qu'on fait déjà énormément.
Complètement. Complètement. Et du coup, ça me donne envie de dire deux choses. Dans la manière de voir, c'est comme le marketing, faut voir ça comme un entonnoir. C'est-à-dire on part large et on resserre au maximum. On part du trimestre, mois, etc., hebdomadaire, journalier, etc. Donc c'est vraiment comme ça que je propose de travailler sur son orga. Enfin, je vais rien inventer, hein, je précise. Mmh. C'est vraiment la manière, entre guillemets, de faire de la gestion de projet. Et la deuxième chose que ça m'a évoqué, c'est en effet, tu l'as très bien dit, j'ai pas pensé à le dire, mais en effet, la rétrospective, la boucle de feedback, faire le point sur ce qu'on a fait, pas fait, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, pourquoi ça a bien marché, pourquoi ça a pas bien marché, qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai envie d'arrêter, qu'est-ce que j'ai envie de commencer. On peut le faire, alors, quand je le fais avec les dirigeants, tu as vu, nous, on le fait à deux échelles. On le fait à l'échelle personnelle, c'est à moi, dans l'entreprise et en l'occurrence dans mon entreprise. Qu'est-ce que j'ai envie de, en tant qu'humain en fait, hein, de garder, de conserver, j'en sais rien, d'arrêter de travailler les week-ends par exemple, ça va être ça, ou de commencer à prendre des jours off, on peut le dire dans un autre sens. Et c'est intéressant aussi de le voir à l'échelle de l'entreprise. Donc ça, je le propose plutôt sur une rétrospective trimestrielle où on va se demander concrètement qu'est-ce que l'entreprise a réalisé. Qu'est-ce que j'ai envie que mon entreprise commence à faire? Qu'est-ce que j'ai envie qu'elle arrête? Par exemple, bah, j'ai envie qu'il n'y ait plus de coaching individuel ou de consulting individuel. J'ai envie de, enfin, que l'entreprise commence à faire de la formation groupée, ce genre de choses. Et c'est ouais super important ces temps de rétrospective de se demander qu'est-ce qui s'est bien passé, pas bien passé, etc. C'est vraiment comme ça qu'on évolue, qu'on se rend compte des besoins qu'on a au niveau de l'entreprise, etc. Et ça permet vraiment de se rendre compte des fois, oui, des fois aussi. Je tiens à le dire parce que moi, je fais mes rétrospectives aussi, des fois, je subis des échecs aussi, même en organisation ou autre. Et vraiment, ça permet de se rendre compte que des choses qu'on pensait réussies sont en fait un échec cuisant. Parce que c'était réussi, par exemple, d'un point de vue communication. Ça a très bien marché, la sauce a pris, tu vois. Même il y a eu des ventes, tu vois, à la limite derrière. Tu vois, enfin, j'ai envie de dire, même d'un point de vue chiffre d'affaires, c'était un succès, etc. Mais par exemple, moi, j'ai beaucoup analysé le côté quand je fais mes rétrospectives, j'analyse beaucoup le côté gestion de projet, forcément. En termes de gestion de projet, fiasco total. tu vois, genre zéro pointé. Et en fait, du coup, le fait de se rendre compte de tout ce qui n'a pas fonctionné te donne en fait les tâches que tu vas devoir réaliser la prochaine fois. Parce que ça n'a pas marché, pourquoi ? Parce que j'ai fait ça, parce que j'ai pas fait ça, parce que j'ai pas fait ça. Ah, mais en fait, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et ça te permet de savoir aussi les choses que tu dois faire pour la suite.
Ouais, et c'est marrant, cet exemple que tu donnes, je trouve que ça souligne un état d'esprit, une sorte de philosophie que je trouve intéressante par rapport à nos activités et nos entreprises, qui est, on est plus attaché. Enfin, ce à quoi on s'attache plus dans ce regard-là, c'est pas les résultats sur le moment, mais c'est la construction d'un système qui permet de répercuter ces résultats sur le long terme. Et donc, comme tu le dis là, dans tes yeux et par ton spectre de cette philosophie-là, c'est plus important que la gestion de projet et le système qui permet de générer les résultats d'un lancement soient clean que le chiffre d'affaires du lancement en lui-même. Et que du coup, il faut mettre son attention sur est-ce que le système que je suis en train de construire, il est fluide, il fonctionne, il tourne et il optimise mes résultats, ou est-ce que j'ai des résultats seulement à mon espèce de force brute sans avoir un système solide derrière, tu vois. Et je trouve ça hyper intéressant de regarder les choses comme ça en se disant, en fait, notre objectif, avec toutes les réflexions qu'on a, toute notre organisation, tout le travail qu'on met, c'est de construire un système qui soit pérenne et durable dans le temps, qui nous permettent de générer des résultats évidemment de plus en plus optimaux, mais sur le long terme, quoi. Et je trouve ça hyper intéressant de regarder des choses comme ça.
Yes, c'est vrai qu'on a tendance à pas forcément toujours le faire. On a souvent ça dans notre tête et on a la sensation en fait qu'on a analysé, que c'est bon, que c'est compris. Et même pour les plans 90 jours, je pense que tous les entrepreneurs ont quand même une vision plus ou moins long terme, et tous les freelances indépendants se disent, OK, les deux, trois prochains mois, je vais mettre mon focus dessus, etc. Mais c'est différent de l'avoir en tête et de prendre du temps à le poser, à l'écrire, à le conscientiser concrètement, et c'est vrai que ça change un peu tout.
Ouais, ouais, grave. Et c'est cool que tu parles de cet aspect vision long terme, parce que ça m'amène à un autre point dont je voulais grave parler avec toi, qui est un truc auquel je m'identifie beaucoup, parce que, tu vois, là, moi, c'est hyper clair pour moi, tout ce que j'ai envie de faire avec mon projet et ma boîte, je pourrais presque te faire le plan sur 20 ans, si tu me le demandais, yes. Tu vois, avec une clarté vraiment super, enfin voilà, limpide, quoi. Et je vois que ça m'enthousiasme énormément de penser tous ces trucs et de voir la stratégie et le plan de développement et quelle étape après l'autre et ainsi de suite. Mais ça m'enthousiasme beaucoup moins d'ensuite prendre ce regard super macro et ces opportunités de marché que j'arrive super bien à capter et tout, et de les ramener à la vision ultra du quotidien dont on parle depuis le début, tu vois. Et moi, ça ne m'enthousiasme pas particulièrement d'aller analyser combien de temps j'ai investi à quel endroit pour optimiser ma marge horaire, et etc., etc. Et ça m'amène à une réflexion qui m'est venue d'écoute et ainsi de suite, et que tu m'as partagé aussi, et qui est défendue par le livre Rocket Fuel, qui est la vision de se dire, dans une entreprise, il y a toujours un profil visionnaire, auquel du coup j'ai l'impression que je m'identifie, et un profil intégrateur, qui est le profil qui est là pour être le chef d'orchestre, quoi. C'est-à-dire prendre la vision du visionnaire et dire, OK, pour qu'on réalise ça, voilà comment la machine va fonctionner, et qui, du coup, est justement enthousiaste à un peu tout ce qu'on s'est dit là depuis le début de l'épisode, quoi.
Oui, c'est totalement mon cas, tu vois. En mode, ouais, on va perdre la planification, c'est trop bien.
J'adore qu'il y ait des êtres humains comme toi sur Terre, c'est trop bien.
Ouais, c'est vraiment un livre qui est super intéressant à lire. C'est une espèce de théorie, enfin en tout cas un concept plus qu'une théorie, qui est vraiment intéressante, qui dit oui voilà, il y a d'un côté le visionnaire, de l'autre côté l'intégrateur. Alors le monde n'est pas tout blanc et tout noir. On est toujours un peu des deux. Je pense qu'on change aussi, on évolue, hein. Peut-être que pendant 20 ans, on peut être plutôt visionnaire et puis changer parce que les choses qu'on fait dans son entreprise évoluent ou j'en sais rien. Ouais. On peut être aussi ni l'un ni l'autre. C'est tout à fait possible. Et donc, ça va être un profil ni l'un ni l'autre. Ça va être quelqu'un qui va être beaucoup plus hybride, en fait, qui va à la fois pouvoir se projeter en tant que visionnaire ou en tant qu'intégrateur, mais qui va peut-être devoir faire un peu plus de travail si elle veut vraiment avoir ce rôle vraiment d'intégrateur ou de visionnaire. C'est pas obligé non plus, hein. Dans toutes les entreprises, il n'y a pas que des visionnaires et des intégrateurs. Oui. Il y a plein d'autres profils et personnalités. Mais grosso modo, ouais, dans la vision, en tout cas, de l'entrepreneur solo, quand il se lance, il est, généralement, ils portent la vision. On arrive sur le marché de l'entrepreneuriat en mode visionnaire, hein, généralement. Mmh. Et très vite, on doit faire face à des problématiques d'intégrateur parce que même quand on n'a pas une vision aussi longue que la tienne à 20 ans, il faut quand même planifier un petit peu, etc. et mettre sa casquette de chef de projet. Ouais. Et c'est vrai que savoir un peu où on se situe, dans quel, tu vois, est-ce qu'on est plus visionnaire, plus intégrateur, etc. Ça permet de connaître aussi un peu ses lacunes et ses avantages. Donc vraiment, je recommande le bouquin. C'est l'espèce de recette, tu vois, la marche à suivre, quoi, le plan d'action pour le fonctionnement entre intégrateur et visionnaire. Mmh. Et l'idée, oui, c'est, tu vois, quelqu'un comme toi qui a vraiment cette vision que tu vas porter loin et que tu vas porter fort aussi, ça peut être intéressant pour quelqu'un comme toi de te dire, en fait, il faudrait que je recrute quelqu'un qui soit vraiment intégrateur, qui soit en mode tac, 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 comme ça.
Ouais.
C'est vraiment ce dont j'ai besoin. Y a d'autres profils qui sont un peu plus intégrateurs, tu vois, qui sont bien sûr plus visionnaires, mais qui vont avoir quand même cette faculté à redécouper, alors peut-être pas dans la micro-tâche, mais à se dire, OK, donc si dans 20 ans, je veux ça, ça veut dire que l'année prochaine, il faut que j'ai ça, hein, tu vois. Voilà, ça dépend. Il y a un peu tous les genres de profils.
Ouais. Et je sens quand même que, tu vois, je suis pas en aversion totale à ça. Tu vois, c'est pas comme si c'était l'énorme bordel et j'avais aucun outil et tout. Je vois que, tu vois, j'adore avoir un espace clair et zen pour que mon cerveau soit clean et que j'ai de l'espace dans la tête, tu vois. Et que donc, ça se répercute forcément aussi dans mon organisation, ma gestion. Enfin, voilà, je me sens pas énorme bordel, mais je sens pas que c'est un truc qui m'enthousiasme énormément, tu vois. et où genre j'adore résoudre des petites problématiques d'organisation et ainsi de suite. Et c'est vrai que du coup, dans ce sens, il y a une réflexion qui est intéressante qui arrive à ce moment-là, c'est que moi, comme je sais que ma vision me porte à faire, j'ai envie d'avoir plein de choses, plusieurs entreprises qui cohabitent ensemble autour du sujet de l'indépendance, enfin voilà, ça grossit dans le temps. Donc je sais que ça devient un enjeu pour moi de m'entourer d'un profil comme ça et que c'est vraiment ça qui est dans mon intérêt finalement pour être, t'en parlais tout à l'heure, plus dans ce qu'on pourrait appeler la zone de génie et vraiment consacrer mon temps et mon énergie aux choses qui me recréent de l'énergie et qui font que juste je kiffe mon quotidien, quoi. Pas que cette autre partie, ça me pèse énormément, mais c'est pas non plus l'endroit où si je pouvais choisir tout ce que je fais, j'investirais mon temps. Et c'est vrai qu'on voit plein de couples là-dedans. Tu vois, genre, je pense à... Il y a plein d'entrepreneurs qui ont ça. Je pense à Marc Simoncini. Marc Simoncini, il a utilisé le même intégrateur pour chacune de ses boîtes. Chaque fois qu'il lançait une nouvelle boîte et qu'il en définit une opportunité, bah, il allait chercher le même gars qui était tout le temps son profil intégrateur sur toutes ses boîtes et avec qui il disait « Viens, on bosse ensemble sur ça. Viens, on bosse ensemble sur ça. » Et il lançait des nouveaux projets ensemble à chaque fois. Et je trouve que ouais, quand tu trouves l'autre personne avec qui ça fit et ça fonctionne bien, en tout cas quand c'est ta vision de t'entourer et d'être plusieurs, bah, je pense que ça peut être une super... une secret sauce, quoi.
Mais complètement. Et ça ne m'étonne pas qu'ils gardent toujours le même intégrateur parce qu'il y a une vraie synergie, en fait, qui se crée entre les deux personnes. Et c'est en fait, c'est cette synergie-là, c'est ce qui est développé dans le concept Rocket Fuel, c'est cette synergie-là qui fait la réussite, en fait, de l'entreprise, enfin, qui fait qu'on arrive à amener, à arriver à la vision. Et, ouais. Et donc, ouais, des couples comme ça, il y en a plein qui sont connus. Il y a Steve Jobs et Steve Wozniak. Ouais. J'ai oublié les mecs de McDo, mais tu vois, enfin, c'est pareil, c'est toujours des binômes comme ça qui sont allés croquer le monde. Et en fait, l'un sans l'autre, en fait, ça aurait rien donné. Je pense que Apple n'aurait jamais été Apple si il n'y avait pas eu Steve Wozniak derrière, en fait. Et en même temps, inversement, c'est Steve Jobs qui portait la vision et qui a permis en fait l'expansion de cette marque, etc.
Ouais, c'est hyper intéressant. Mais du coup, si on revient sur le modèle où je suis seul et j'ai pas forcément envie d'aller chercher un intégrateur si je me sens visionnaire ou en tout cas dans la définition du livre ou un visionnaire si je me sens intégrateur, à ton sens, si on revient un peu sur ce côté genre je suis freelance, je kiffe le modèle freelance où je suis seul dans mon business et je fais la prod et voilà, je gère tout. À ton sens, ce serait quoi les fondations, sans aller dans l'ultra détail de toutes les choses qu'on pourrait idéalement faire si on avait ressources illimitées, les fondations de ce que les personnes qui nous écoutent là se disent, pour qu'elles se disent, ok, si j'ai ça, je sais que la gestion de mon biz, c'est clean et c'est au-dessus de la moyenne, entre guillemets, par exemple. Tu dirais que c'est quoi les fondations de ça ?
Alors, très bonne question. Oui, en gros, remplacer son intégrateur. Mettre en place.
Par des outils ou des systèmes. Ouais. Enfin, tu vois, ce genre de choses, genre les fondations de je gère bien. Et c'est pas le bordel.
Yes. Alors, bah déjà, la première chose, c'est ce qu'on a exploré là pendant un petit moment, c'est ce côté de l'organisation stratégique. C'est-à-dire que avant de faire quoi que ce soit, je fais de la stratégie aussi dans mon organisation. Donc, plan 90 jours, etc. Ça, pour moi, c'est vraiment la chose de base. Donc, deux, des temps de planification, plus. Ça est franchement, OK, il y a les temps trimestriels, mensuels, etc. Mais toutes les semaines, même si on ne fait pas de stratégie d'organisation chaque semaine, on prend du temps pour organiser. Le vendredi, le dimanche, le lundi, quand on veut. Mais vraiment, c'est hyper important.
Donc ça, juste... Ouais, avant que tu continues, ça veut dire, en gros, genre prendre un temps, je planifie mes semaines, dans mon calendrier, j'ai mes blocs temps de qu'est-ce que je fais à quel moment, et comme ça, genre, j'ai plus qu'à suivre la voie, c'est ça?
Oui, en fait, c'est ça. C'est savoir, en gros, quand tu fermes ta semaine, tu dois savoir, en fait, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas la rouvrir. Alors après, tu peux aussi choisir de faire ça au moment où tu la rouvres. Ça, je pense que c'est un peu propre à chacun. Moi, je préfère quand je la ferme. Je suis mieux dans ma tête pour partir en week-end. Mais voilà, savoir en fait où on va. C'est vraiment à chaque fois l'organisation, la gestion de projet, c'est vraiment un chemin, quoi. Tu vois, c'est le path. par où je passe cette semaine, en gros. Et c'est vraiment ça qui est important, ouais. Okay. Du temps pour ça, c'est vraiment hyper important. Okay. Je dirais l'agenda. On s'en fout qu'il soit papier, Apple, Mac, enfin, Apple, Mac, c'est pareil, mais Apple, Google, voilà, je voulais dire, Microsoft, peu importe. Ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. Voilà, tout simplement, je pense que c'est pas la première fois qu'on entend ça. Moi, j'entends ça souvent et je suis vraiment 300% d'accord avec ça. Ce qui n'est pas dans l'agenda, ça n'arrive pas généralement.
Ouais, moi, c'est pareil.
Voilà. Ah non, mais c'est, enfin, voilà. Et avoir se mettre des blocs temps. Alors ça, après, c'est un peu propre à chacun. Il y en a pour qui ça va fonctionner, il y en a pour qui ça va moins fonctionner. Même s'ils sont pas posés concrètement, de manière très stricte, je pense que c'est intéressant d'en avoir. Comme je disais, moi, je les fais bouger, mes blocs temps. Toute la semaine, généralement, une fois qu'ils sont posés le vendredi soir, ils bougent très peu la semaine. Mais, en fait, moi, je planifie mon agenda, il est vraiment planifié sur le trimestre. Après, bien sûr, les choses, elles viennent se rajouter, les rendez-vous, etc., etc. Et le vendredi, quand je prépare ma semaine suivante, je vais regarder en fait ce que j'ai prévu par rapport à mon énergie du moment, etc. Et je vais refaire bouger mes blocs temps en mode « Ah non, mais en fait, ça, j'avais prévu de le faire mardi, laisse tomber. En fait, soit je le ferai la semaine d'après, soit je le ferai finalement vendredi, etc. » Donc on n'est pas obligé d'avoir des blocs temps très fixés, du genre le lundi je fais de la production de contenu, le mardi je reçois les clients, le mercredi, il y en a qui ça convient bien, moi je sais que ça me convient pas, mais le tout c'est quand même de se fixer des moments clés, par demi-journée c'est bien, généralement une demi-journée, un type de choses à faire, genre focus client, focus contenu, focus j'en sais rien, stratégie, focus création d'offres, etc. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, autre fondement, la gestion des priorités. Si on gère pas les priorités, c'est compliqué. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la fameuse matrice d'Eisenhower, qui est super connue, que personnellement, j'utilise pas vraiment. Moi, ça me parle pas trop, mais ça peut parler à certaines personnes. Donc, c'est un outil qui marche bien.
Tu peux la réexpliquer?
Pour rappel. Ouais. Pour rappel, donc, c'est un cadran, enfin, comment on dit, un abscisse et ordonnée. Je suis super nulle en maths.
c'est une espèce de schématisation avec quatre cases, qui est sur, il y a deux droites. Il y en a une, c'est urgence. Donc, est-ce que c'est à faire très vite ou pas? Et il y en a une autre, c'est importance.
Exact. Et en fait, on va se demander, est-ce que cette tâche est urgente et importante? Urgente mais non importante, non importante et urgente, non importante et non urgente, voilà. Tapez matrice Eisenhower sur Google, vous allez avoir le petit carré direct. Et en gros, c'est que le principe, c'est que chaque, par exemple, si c'est urgent mais non important, on va considérer que c'est à déléguer. Si c'est urgent et important, on considère que c'est à faire. Si c'est non urgent et important, on va considérer qu'il faut le planifier. Et si c'est non important et non urgent, on va considérer qu'il faut le supprimer. Voilà. Donc du coup, on peut fonctionner comme ça. Moi, personnellement, la gestion des priorités, ça fonctionne en lien direct avec les objectifs et la planification trimestrielle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est presque déjà fait. En fait, quand on fait ce travail-là, les priorités sont déjà définies. On sait sur quoi on va bosser, etc. ou pas. Après, bien sûr, au niveau plutôt hebdomadaire et journalier, pour gérer les priorités, bah, c'est toujours de toute façon de se rappeler est-ce que ça sert l'objectif du trimestre ou pas. Est-ce que si je fais ça, c'est vraiment utile, etc. Donc, je le fais de manière plus intuitive, on va dire, mais pour commencer, la matrice d'Eisenhower, c'est pas mal. Et revoir toutes les semaines ses objectifs. Enfin, toutes les semaines, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas grave, vous mettez pas la rate au courbouillon si c'est pas toutes les semaines, obligatoirement. Mais régulièrement.
Mais en tout cas, garder en tête, quoi. Ouais.
Voilà, régulièrement faire le point sur les objectifs du trimestre. Pour valider, bien s'assurer qu'on va sur le bon chemin, etc. Parce qu'un trimestre, c'est long aussi, quand même. On peut se
mettre. Ouais, complètement. Du coup, si je récapitule, je vais tenter de récapituler pour les gens qui nous écoutent pour qu'on ait l'entière vision de leur devoir. On peut dire ça peut-être. Du coup, je vais reprendre l'entonnoir. Du coup, on commence avec des temps d'organisation stratégique déjà au trimestre, où on prend genre une demi-journée par exemple. on fait une rétrospective de ce qui s'est passé le trimestre d'avant, avec les questions que tu nous as posées tout à l'heure, et on planifie ce qu'on veut faire sur le trimestre d'après avec l'objectif phare et important, les projets au service de ça, les tâches qui vont être dans ces projets, et on essaie de les caler dans notre calendrier.
Exact.
Ok.
On les cadre dans le calendrier avec des temps de planification dédiés. Yes. Les temps que je me pose pour planifier.
Ok. Et du coup, on met à l'avance toutes les semaines et tous les mois un temps où notre seul objectif, c'est regarder le calendrier, planifier les tâches et s'organiser.
C'est ça. On se laisse pas le choix, c'est vraiment de la discipline.
Et ensuite, toutes les semaines, on a un moment où on regarde ce qui est prévu sur la semaine, on réorganise en fonction de nos enjeux et de nos envies, et on essaie de caler des blocs temps où on essaye du coup d'avoir une vision hyper claire sur la semaine prochaine, qu'est-ce que je fais, à quel moment et dans quelle intention. Et si on voit que ça rentre pas, on fait rentrer un jeu de priorisation, comme tu disais à la fin, du coup, on dit, ok, qu'est-ce que je priorise? Est-ce que je garde ça? Est-ce que je garde ça? Et on fait un peu le ménage, quoi.
Exactement. Gestion des priorités. Ouais, tout à fait. Ouais, les blocs temps, etc. Ouais, c'est ça. Je t'es en train de remémorer, mais je crois que t'as tout résumé.
Ok, cool. Du coup, est-ce que tu verrais autre chose à rajouter à ce dessin-là, ou est-ce que tu te dis, ok, si toutes les personnes qui nous écoutent construisent ce système pour eux et elles, c'est déjà un très bon départ sur une gestion de projet fluide pour leur boîte.
Oui, ça me paraît déjà être assez complet. Peut-être que les questions qui peuvent venir avec, c'est oui, mais Sonia, sur quel outil concrètement je fais ça, etc. Là, en fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment d'outils, c'est propre à chacun l'outil, tu vois. Y en a qui vont préférer Notion, il y en a qui vont préférer ClickUp, il y en a qui vont préférer un agenda papier, d'autres un agenda Google, d'autres qui vont mixer plusieurs outils. Voilà, pas trop se prendre la tête avec l'outil. Avoir plus, enfin, encore une fois, c'est vraiment, j'ai envie de faire le lien avec le marketing. C'est vraiment comme en marketing, c'est pas qu'on se fiche des outils, évidemment, ils sont importants. Mais que tu utilises ConvertKit ou ClickFunnel ou je sais pas quoi, c'est pas ça en fait qui va faire que ta campagne marketing soit réussie ou pas. C'est la stratégie que t'as mis en place. Mmh. Voilà. Donc du coup, pareil pour l'organisation. Ne pas trop se prendre la tête avec les outils, parce qu'en fait souvent, parmi les erreurs, il y a l'erreur de trop surcharger. Bon, normalement, si on fait notre point trimestriel, etc., on surcharge déjà moins. Et la deuxième erreur, c'est parfois de perdre du temps dans les outils, dans la mise en place d'outils, etc. Or, en fait, limite, il vaut mieux un système crayon-papier qui fonctionne bien plutôt que d'avoir un bulldozer sur ClickUp sur lequel on fait n'importe quoi.
On saute
quoi. Ouais, c'est ça. Voilà.
Cool. Ok, trop bien. Trop bien. Je pense que ça donne une vision assez claire et ultra actionnable. Je suis content parce que je me dis... Voilà, on a parlé de plein de choses pendant cette discussion et on arrive sur un truc en mode « Ok, les gens, ils ont envie de fermer l'épisode et d'y aller, quoi. » Donc, c'est cool aussi.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Restez simple. Voilà, vraiment, en gros, c'est comme pour tout. Plus le système, il sera simple, plus ce sera facile de le supporter. Parce que c'est aussi ça, hein, je trouve, souvent le problème en organisation, c'est qu'on essaye de se mettre des... De se créer des systèmes assez complexes, et je le comprends, je suis passée aussi par là, ces moments où on se dit bon, là il faut que je m'organise, je regarde des tutos sur YouTube de productivité, d'organisation, et je commence à monter mon bulldozer, et en fait j'arrive pas à respecter ce que je me suis mis, tout simplement parce que c'est trop lourd pour moi, c'est trop lourd, je suis pas une entreprise avec 50 personnes, et l'organisation, comme tu le sais très bien, elle va suivre aussi le flow de l'entrepreneur. Au début, les besoins, ils sont très centrés finalement sur soi, ce qui est normal, hein, on entreprend, on est tout seul. Et puis, au fur et à mesure, on va avoir besoin de, pas forcément plus en plus d'outils, mais en tout cas de les faire évoluer, de les changer, de les modifier, de mettre en place justement des systèmes un peu plus lourds, etc. Parce qu'on va avoir besoin de communiquer avec une équipe, etc. Mais rester simple, surtout le faire comme on le sent soi. C'est pas grave si on n'a pas fait son bilan de la semaine, c'est pas grave si si on n'a pas estimé le temps à la minute près pour savoir son trimestre. Le tout, c'est d'avoir une bonne idée de où on va, en fait. C'est vraiment, c'est la, comme la strat marketing, quoi. C'est, on se crée le chemin en termes d'organisation.
Ouais, c'est important, comme tu le dis, si on continue ces liens avec le marketing, que ça nous ressemble et ça joue sur nos forces. Et si on construit un truc auquel, genre, c'est une énorme plaie d'aller nourrir le truc, ben, c'est peut-être pas la bonne manière de s'organiser. Et on peut voir comment est-ce que je joue avec ma manière de faire, quoi. Donc, clairement, je te rejoins à fond là-dessus. Je te propose, du coup, qu'on arrive sur les petites questions rituelles de fin d'épisode, si ça te va.
Yes.
Avec la première question qui est donc, si t'étais face à Sonia, elle démarre son aventure, c'est le premier jour en indépendance, elle est peut-être sur un voilier du coup. C'est quoi le conseil que tu lui donnerais?
De se comporter, entre guillemets, je sais pas si c'est vraiment le bon terme. Non, je vais changer de terme, de s'organiser, on va rester dans le thème, de s'organiser comme une entreprise, en fait. Alors, je m'explique. Donc, je veux pas aller à l'encontre de ce que je viens de dire, du genre, créez-vous un bulldozer dès le premier jour. Non. Mais, en fait, c'est vrai que dès le premier jour, je n'avais aucune notion d'organisation, de gestion, etc. Ce qui fait que ça m'a pas spécialement aidé dans mon cheminement d'entrepreneur, de freelance, de chef d'entreprise, de dirigeant, etc. En fait, le fait de stratégiser un petit peu l'organisation dès le départ, je pense que ça nous permet d'aller travailler ce chemin qu'on parcourt. Puisque au début, je sais pas si c'était ton cas, Thomas, mais moi je sais qu'au début je me sentais ni freelance, ni entrepreneur, ni rien du tout, quoi. Enfin, je veux dire, j'avais aucune notion de rien. Et petit à petit, il y a des choses qui se sont construites. Et puis je me suis sentie freelance. Et puis je me suis sentie entrepreneur. Et puis oui, aujourd'hui je me sens chef d'entreprise, tu vois. Et je pense que ouais, organiser justement, enfin travailler son organisation, considérer son entreprise comme une entreprise dès le départ. Ouais. Ça permet de faire ce chemin plus facilement.
Du coup, de se dire, voilà, j'ai une approche sérieuse et impliquée sur le fait que je suis en train de faire un vrai truc, quoi. Je suis pas en train de jouer dans mon coin à faire des petites missions, quoi.
C'est ça. En fait, complètement se considérer comme un professionnel, comme une entreprise dès le départ. Alors, une entreprise qui a des tout petits process, qui a des choses très simples et tout, c'est super OK. Mais voilà, mais pas là pour rigoler, quoi.
Ouais, pas là pour enfiler des perles.
C'est ça.
Ok, cool.
En
ça
gros,
me parle.
C'est l'idée.
Ouais, ça me parle.
Ouais.
Trop bien. Du coup, en lien avec ça, et ça va peut-être faire suite à ce que tu dis, mais la prochaine question, c'est quelle a été ta plus grosse difficulté, la plus grosse difficulté que tu as rencontrée depuis que tu t'es lancée, et comment tu as fait pour la dépasser?
Alors, pour moi, la plus grosse difficulté, ça a été le positionnement, l'alignement de mon activité. Je pense que c'est en lien avec ce que j'ai dit précédemment. C'est-à-dire que comme je me suis pas considérée tout de suite comme une professionnelle, comme une entreprise, ça m'a pas aidée en fait à vraiment savoir où j'allais, poser cette vision justement long terme, etc. Et donc pour moi le positionnement ça a été lourd, quoi. Et d'ailleurs la toute première fois qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est vus en visio, c'était à ce sujet-là.
Ouais, je me souviens.
Vraiment, on a parlé de ça à ce moment-là. C'était le moment où j'avais pris conscience vraiment de ça. C'était en 2019 et c'était le moment où j'ai compris des choses sur ce fameux positionnement. Donc comment j'ai fait? Eh bien, en travaillant sur moi. C'était vraiment le côté dev perso qui a changé beaucoup beaucoup de choses dans ma vie d'entrepreneur, en fait. Je crois que j'ai jamais autant travaillé sur moi que depuis que j'entreprends. Si vous cherchez une psychothérapie pas chère,
devenez freelance, lancez-vous.
Devenez freelance, clairement. Ouais, et en fait, c'est un truc de fou, quoi. Et en même temps, c'est logique, hein, puisque c'est nos tripes qu'on sort, donc enfin voilà, faut l'imaginer le projet, etc. Donc il vient pas de nulle part. Mais j'ai mis du temps à comprendre en fait ce que je voulais faire, comment je voulais le faire, pourquoi je voulais le faire. J'ai mis bien trois ans facile, deux ans et demi, tu vois, deux ans et demi, trois ans. Mais c'est un peu long. Voilà, donc je suis contente là, d'avoir dépassé ça.
Et en même temps, comme tu le disais tout à l'heure, ça se trouve, dans cinq ans, tu vas te dire, en fait, j'étais pas du tout arrivée. Et je me rends compte que c'était pas ça.
Mais complètement. Je pense que de toute façon, on n'est jamais vraiment arrivé. C'est ce qui est la beauté de la chose. Après, voilà, moi, la difficulté que j'ai éprouvée, c'était vraiment justement, tu sais où tu veux aller. Après, c'est pas grave si tu n'y arrives pas. Mais tu prends quand même un chemin, tu prends une direction. Et sur la route, tu vas rencontrer des choses qui vont t'amener peut-être ailleurs. Et la problématique que j'avais, moi, c'est que vraiment, je n'avais pas d'idée de où je voulais aller. Et donc, du coup, j'avançais. Puis en fait, non. Attends, je vais essayer ça. Ah, en fait, non. Donc c'est vrai que c'est fatigant. Et ça peut être parfois... ça a été pour moi parfois un peu décourageant parce que tu vois les autres autour qui cartonnent, en fait, qui vont straighten là, vers leur objectif. Et t'as l'impression que tout le monde passe devant toi en mode boum, boum, boum. c'est pas facile. Et le fait d'avoir vraiment bossé sur moi, d'avoir compris en fait que tout venait des tripes, ça m'a permis de, par contre, de faire un bond de 10 années-lumière, quoi. ça a été assez radical.
C'était trop bien. Magique. Trop bien. Ouais. Je suis content que tu parles de ça parce que moi, c'est clairement une conviction que j'ai que cette voie professionnelle, c'est aussi presque avant tout une voie de développement de soi. Et je pense qu'on a trop rapidement fait d'opposer développement personnel et développement professionnel, alors que pour moi, c'est un tout et un chemin assez holistique qu'on mène main dans la main, quoi. Et clairement, moi, j'ai envie d'inviter toutes les personnes qui nous écoutent à vraiment avoir cette démarche de développement et recherche de soi dans le cadre de son activité. Parce que pour moi, ça fait toute la différence et c'est un truc que je défends fort avec Marie dans notre programme Surf. Parce que clairement, pour moi, c'est la fondation, en fait.
Ouais, 300% d'accord avec ça.
Cool. Vraiment. Cool. On arrive sur ma petite question spéciale saison 5, qui est une nouvelle question que je posais pas avant. Mais je suis curieux d'entendre ta réponse. Elle est toute simple pour l'instant. C'est Sonia, quel est ton objectif professionnel du moment ?
Très bonne question. Mon objectif professionnel du moment, là, c'est de... tu parles à quelle échelle ?
Professionnel, c'est-à-dire Sonia Laurembourg.
Là, c'est de développer justement la branche Sonia Laurembourg, la branche consulting, formation. Donc, c'est l'objectif de fin d'année, c'est de poser tout et d'avoir la communication qui est en adéquation avec ce que je fais.
Ok.
Puisque jusqu'en tout cas un moment où nous tournons cet épisode, ce qu'il y a sur mon site et mes divers réseaux ne correspond pas forcément à ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Et puis deuxième étape, aller développer un peu ça, scaler un petit peu tout ça, ouais. Tranquillement. Okay.
Donc au 8 juillet 2021, comme ça on pose la date pour les gens qui nous écoutent quand l'épisode sort en octobre. Au 8 juillet 2021, tu te dis, ok, mon objectif de fin d'année, c'est d'avoir l'image sur Internet à la hauteur de ce que je produis aujourd'hui pour mes clients et ce que je veux faire.
Exactement, c'est ça.
Ok. Tout à fait. Okay. Et du coup, la question qui se cache derrière celle-là, c'est, à ton sens, d'où il vient à l'intérieur de toi cet objectif ? Pourquoi c'est important pour toi ? Et si on regarde un peu dans le monde émotionnel, d'où est-ce que ça naît, le fait d'avoir cet objectif-là ?
Excellente question. Je dirais que c'est... il y a vraiment une part où je suis prête, en fait, là, à aller développer cette partie de mon entreprise et donc de moi. Comme on disait tout à l'heure, c'est super lié. Jusqu'à présent, c'était pas mal de boulot en backstage et de réseau, etc. Donc, ça marche très, très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand site internet et de faire beaucoup de communication pour gagner sa vie. C'est pas du tout une nécessité. Mais aujourd'hui, en fait, je suis vraiment, vraiment alignée avec ce que je fais. Je me sens formée, je me sens prête, même si je suis en formation toute l'année, mais voilà. Et j'ai envie d'aller un peu, étendre, tu vois, un petit peu étendre ça, apporter finalement, étendre l'aide que je peux apporter aux entrepreneurs un peu plus loin que ce que je fais aujourd'hui. J'ai toujours dit, entre guillemets, enfin, depuis que j'ai vraiment travaillé sur moi, que ce que je voulais, c'était être une petite entreprise, mais à fort impact. C'est-à-dire que, clairement, moi, dans ma vision, il n'y a pas plein d'entreprises, de sous-entreprises ou quoi que ce soit. J'ai vraiment cette vision assez, finalement, petite, mais à fort impact. Et là, en fait, ça y est, je suis prête pour le fort impact. Tu vois, c'est le bon moment pour moi. Et donc, j'ai envie d'aller en parler un peu plus, être plus visible sur les réseaux, etc. aussi pour ça.
Voilà. Est-ce que je peux te questionner, et je suis curieux d'avoir ta réponse sur qu'est-ce qui fait que tu dis et que tu sens « ça y est, je suis prête ». Tu vois, c'est quoi les critères que tu as cochés qui font que c'est maintenant, tu vois?
Et c'est très intuitif. Il y a, je dirais que c'est pas tellement, c'est pas, tu vois, autant pendant une heure là ou deux, on a parlé de choses très concrètes où on pose sur le papier, on coche des cases, etc. On peut se repérer en fait sur un chemin qu'on aurait construit. Là, en fait, j'ai beaucoup travaillé la confiance en moi ces derniers temps. Beaucoup. Donc c'est vraiment là pour le coup, c'est de l'ordre complètement de l'émotionnel. Parce qu'en fait, en termes de stratégie, en vrai, je suis prête depuis longtemps. C'est-à-dire que je vais pas dire que le marketing n'a pas de secret pour moi, ce serait mentir. On a toujours beaucoup de choses à apprendre, mais tu vois, créer une offre, tout ce qui est persona, etc. Ça plus des choses qui me bloquent vraiment. C'est pas difficile pour moi aujourd'hui de créer ça. En fait, tout ça d'ailleurs, c'est prêt depuis longtemps. Là, j'ai beaucoup bossé ma confiance en moi à travers plein d'accompagnements professionnels, mais aussi des nouvelles choses qui sont arrivées dans ma vie personnelle, qui font que là, c'est bon, quoi. Je suis au bon endroit, au bon moment. Je crois en mon projet, je sais qu'il y a de la demande, j'y vais.
Ouais, j'adore que tu illustres ce point et merci de le partager parce que, à mon sens, ça rend compte d'un truc qu'on peut sous-estimer, c'est à quel point finalement tout se passe vraiment dans la tête. Tu viens de dire là, genre, stratégiquement, je sais comment avancer, je sais où je vais et comment je pourrais faire, comme si tu avais la recette devant toi et tu n'avais plus qu'à la suivre. Mais genre, tu la suis pas jusqu'au moment où, ça y est, je suis prête à embarquer sur ce voyage et je sens en moi la certitude et la confiance nécessaire d'y aller. Et je trouve que c'est tellement important d'illustrer ça parce qu'on a tellement vite fait de se plonger seulement dans quand j'aurai la bonne stratégie, alors là, tout fonctionnera, tu vois. Alors que c'est complètement faux, en fait.
Oui, c'est faux parce que bon, moi, la bonne stratégie, enfin bonne, je sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, stratégie, je l'ai, voilà. Elle est là. Il y en a une, en tout cas. Et pour autant, c'est pas ce qui m'a poussée, en fait, à vraiment aller communiquer sur ce que je fais, etc. C'est des choses beaucoup plus internes, en fait, ouais.
Trop bien. Trop bien. Ben, merci d'avoir partagé ça et de nous avoir fait voyager un peu dans ton intériorité. Et du coup, maintenant, on va retourner la caméra et on va aller inviter les personnes qui nous écoutent à se questionner sur leur intériorité. Et pour ça, tu as le droit, comme tout invité sur Young, Wild and Freelance, de poser une question à notre audience pour que cette semaine, ils prennent le temps de réfléchir à leur vie et leur business d'indépendant. Sonia, quelle est ta question?
Alors, la petite question pour l'audience de Young, Wild and Freelance, c'est une question que me pose régulièrement ma coach bien-être. Que j'adore. En fait, c'est vraiment quand je dis régulièrement, c'est qu'en fait, de temps en temps, quand entre guillemets, je me perds ou je dévie un petit peu, elle me recentre avec cette question qui est Sonia, on est à ton anniversaire ou du coup, on est à votre anniversaire de vos 85 ans. Qui y a-t-il qui vous entoure à ce moment-là? Quels sont vraiment tous les protagonistes de votre vie à ce moment-là? Et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, etc. En gros, qu'est-ce que vous avez envie qu'il se passe ce jour-là? Aujourd'hui, genre, prévoyez ce jour-là. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que des fois, en fait, on se rend compte que on prend des chemins où on se dit, mais non, à 85 ans, j'ai pas du tout envie ouais. de dire ceci ou cela, pas du tout. Par exemple, j'ai pas du tout envie de dire que j'ai bossé pendant 50 heures par semaine pendant 10 ans. C'est pas ça que j'ai envie de raconter à mon anniversaire. Voilà.
Trop bien. J'adore cette question. C'est drôle
elle
parce que
cool. Elle est cool.
Ouais, elle est cool, hein. J'ai un petit groupe de business friends. On est à 8-9 dans le groupe. Et on s'était réunis en disant que notre enjeu commun, c'était de faire en sorte qu'on réussisse tous nos enjeux et nos objectifs personnels et que le groupe contribue à ça. Et il y a une soirée qu'on avait passée dans un resto où on avait fait toute une présentation PowerPoint sur notre vision et ce qu'on voulait faire avec nos projets respectifs et nos objectifs, du coup, justement. Et une des questions qu'on s'était posées, c'était « Quand tu auras 80 ans, qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi ? Et c'est quoi le souvenir que tu veux laisser dans la tête des personnes dont t'as croisé le chemin pendant ta vie. Et j'adore cette prospective de se poser ces questions-là comme celle que tu viens de nous poser qui est fantastique. Parce que clairement, ça te projette dans, OK, ouais, je dispose de 80, 85 ans dans cette vie. Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, quoi? Et la réponse, elle est tellement personnelle et ça guide tout le reste, en fait.
C'est ça. De qui on veut être entouré? Parce que des fois, on s'entoure de personnes. Et qui en fait on les voudrait pas forcément autour de nous à 80 ans. Tu vois ce que je veux dire?
Je
pense par exemple à quelqu'un qui est salarié, tu vois, et qui ose pas quitter son emploi ou ce genre de choses. Est-ce que son patron fait partie des personnes avec qui il voudrait être entouré à son anniversaire? Je pense pas. Tu vois. Et c'est vrai que c'est voilà, j'aime beaucoup cette question. Moi, à chaque fois, elle me remet un peu sur le droit chemin. Je mets des gros guillemets, c'est mon droit chemin à moi, bien sûr. Voilà, quand j'ai tendance parfois aussi à m'emporter, on s'emporte tous hein, dans les stratégies, les visions, je veux faire ça, ouais, je vais faire 4 formations, je veux créer 4 formations, je vais en suivre 10. Bref, l'entrepreneur de base. Mais quand on revient sur cette question, on se dit non, mais en fait, attends. C'est pas du tout ce que je veux. On se calme.
Ouais, j'adore. Je vais partager un truc marrant, du coup, c'est que moi, à mes 80 ans, j'espère qu'il y aura certains clients à moi aujourd'hui dans certaines des formations ou que je coach en individuel qui seront à mon anniversaire de mes 80 ans. Et c'est ouf de se dire ça, tu vois.
Mais j'avoue, moi, c'est pareil, il y a plein de personnalités qui m'entourent aujourd'hui professionnellement que je vois avec moi ce jour-là, quoi.
Ils ouais, sont là, c'est ouf.
Clairement. Parce qu'en fait, c'est des gens avec qui on a grandi. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens avec qui on s'est construit. Et c'est beaucoup plus profond, ça va beaucoup plus loin que juste quelqu'un avec qui on a partagé de l'argent ou quelque chose comme ça.
Tellement. Et c'est ça que je trouve fascinant dans nos voies indépendantes, c'est qu'on peut construire ce genre de relation même dans le travail. Et je trouve ça fascinant.
Yes.
Trop bien. Bon, je pense que c'est des belles paroles sur lesquelles clôturer notre discussion. Merci beaucoup, Sonia. Trop, trop content de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et si je peux renvoyer les gens vers un endroit, peut-être ton site internet qui sera peut-être fini au moment où cet épisode sera publié. Mais dis-moi où est-ce que je renvoie les personnes qui veulent en savoir plus sur toi et discuter avec toi.
Yes, c'est planifié, donc ce sera, ce sera sorti.
C'est dans l'agenda, donc ça existe.
Je me laisse pas le choix. C'est dans l'agenda, c'est dans mon planning trimestriel, enfin dans mes objectifs du trimestre. Et j'ai des blocs temps dédiés à ça, qui sont planifiés, donc ça devrait le faire. Et ouais, donc sur mon site, donc c'est sonia-lerambourg.fr. Et puis sur Instagram, alors je sais pas si d'ici le mois d'octobre j'aurai vraiment repris la communication, mais en tout cas je suis pas présente en termes de com, mais je suis tout le temps sur Instagram, donc si on veut venir me papoter, c'est le meilleur endroit pour me retrouver.
Ok, voilà. Trop bien, merci, je mettrai les liens dans la description et, yes. Et sur la page du podcast. Grand merci Sonia pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui, c'était trop cool de discuter.
Mais écoute Thomas, un immense merci à toi pour l'invitation, c'était vraiment chouette de venir papoter un peu d'organisation stratégique.
Ouais, c'était très cool. Et merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis, j'espère qu'on a pu être à votre service aujourd'hui.
Pour clôturer cet épisode, j'avais envie de revenir sur la philosophie que je trouve hyper intéressante dans ce qu'on a partagé aujourd'hui avec Sonia. Cette philosophie de on est toujours en train d'apprendre et de structurer pour l'après. Et d'être plus intéressé, disons, par je fais un pas pour après que les résultats qu'on a maintenant dans le moment. Et je trouve ça intéressant parce que déjà ça enlève un niveau d'enjeu, on est moins pétrifié par le fait qu'il faut que ça marche maintenant, et on est en train de se projeter vers je suis en train de structurer pour que tout se passe bien dans le futur. Et j'adore cette vision des choses parce que comme ça on peut pas perdre en fait. On est toujours en train d'apprendre. Et on est toujours en train de faire un pas dans la bonne direction, et même quand les choses ne fonctionnent pas, ça nous donne des apprentissages pour mieux structurer dans l'après. Du coup, je t'invite vraiment à conserver ce point de vue-là de cet épisode, mais aussi toutes les choses hyper concrètes qu'on a partagées avec Sonia, et ces choses hyper concrètes de structuration, de comment tu peux t'organiser au trimestre, au mois, à la semaine, à la journée. Ce sont des choses qui sont au service de cet apprentissage long terme, et du fait de construire une entreprise et un système qui est ton entreprise, qui te permettent de kiffer ton quotidien, de travailler sur les choses où tu as vraiment envie de travailler et d'avoir le mode de vie que tu as vraiment envie d'avoir autour de tout ça. Donc mets de la valeur là-dessus et je serais très curieux de voir à quoi ça ressemble pour toi, l'incarnation de ce qu'on s'est partagé dans cet épisode. Donc n'hésite surtout pas à partager sur tes réseaux et à m'identifier, à me taguer pour que je puisse voir à quoi ça ressemble pour toi. Je t'invite aussi à t'inscrire à ma newsletter sur thomasburbidge.com/newsletter pour venir m'en parler directement et qu'on échange des bonnes pratiques organisationnelles que chacun et chacune d'entre nous met en place pour qu'on structure les choses bien. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu, que t'en retires beaucoup et j'ai hâte de te retrouver dès la semaine prochaine sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.